Chapitre 35. 22 décembre 2017. Marie-Laure Beaulieu est dans la cuisine. La veille au soir, ses trois enfants sont arrivés. Le seul moment de l'année où tout le monde se réunit. 5 jours de parenthèse. Ils ne viennent jamais au même moment le reste du temps, mais ne rateraient pas un Noël en famille. Elle prépare 2 poulets fermiers pour le déjeuner. Elle met toujours de l'ail, du sel et du thym dans le croupion. Jamais de gras, que des épices qu'elle fait mariner la veille dans quelques gouttes d'huile d'olive. Elle va faire griller des pommes de terre pour Valentin et Étienne qui en raffolent, des haricots verts aux oignons frits pour Louise et un gratin de courgettes pour Paul-Émile. Elle écarte les rideaux et aperçoit la voiture du refuge se garer devant la maison. Elle pense que Nina vient voir Étienne. Enfin. Mais Valentin descend côté passager et Nina repart aussitôt. Marie-Laure n'a pas le temps de sortir pour la retenir, lui demander d'entrer, lui offrir un café, la regarder, l'entendre, la toucher. Des années qu'elle ne l'a pas vue. Parfois, elle la croise, toujours au volant de cette voiture, jamais sur un trottoir. Marie-Laure sait que Nina travaille au refuge depuis des années. Elle pourrait y monter pour lui parler. Elle pourrait aussi passer chez elle, mais elle n'ose pas. Cela l'affecte encore, même après tout ce temps. Que Nina et Étienne ne se parlent plus. Que faisais-tu avec Nina Beau, mon chéri ? Demande Marie-Laure à son petit-fils qui entre dans la cuisine. Salut, mamie, tu la connais ? Elle a été comme ma fille il y a longtemps. Elle va venir ce soir. Je l'ai invitée à boire l'apéro ici avec nous à 18h. Avant, elle veut repasser chez elle pour se laver et sentir bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Marie-Laure observe Valentin interdite. Comment peut-il la connaître? Et surtout, comment est-il parvenu à la faire venir chez eux? « Je monte voir si papa est réveillé !» lance Valentin avant de disparaître dans l'escalier. Marie-Laure met le four à préchauffer, 180 degrés, et tire une chaise pour s'asseoir, les yeux dans le vague, dans l'absence du présent. C'était le 12 août 1994. Elle n'oubliera jamais cette date. Il y a dans toute vie quelques avant et après. Elle rentrait de la plage. Chaque fin d'après-midi, elle repartait toujours seule, laissant Marc et les enfants derrière elle. Elle adorait ce temps pour elle. La maison vide, se réhabituer à l'obscurité, volets fermés pour empêcher le soleil de cogner, le carrelage froid sous les pieds, la chaleur sur les murs, le chant des cigales, la douche fraîche, la crème dont on s'enduit le corps, poursuivre la lecture de son roman sur une chaise longue à l'ombre, avant de préparer le dîner en buvant un rosé glaçon, le paradis dans la bouche. Le téléphone fixe de la location a sonné. Elle a décroché au bout d'une dizaine de sonneries, en pensant que ce n'était pas pour elle, mais pour les propriétaires qui louaient cette maison l'été. Il était trop tôt pour que ce soit Adrien et Nina, les seuls à connaître ce numéro. Ils appelaient chaque soir aux alentours de 21h. Au bout du fil, Marie-Laure a entendu quelqu'un suffoquer, souffler, pleurer. Reniflée. Elle n'a pas tout de suite reconnu la voix d'Adrien, n'a pas compris ses mots, a fini par les comprendre, a eu envie de le raccrocher au nez, de faire marche arrière, retourner à la plage, retirer ses vêtements, regarder la mer, tuer le ciel. Elle a juste articulé. Est-ce que Nina sait ?
Non, pas encore, enfin je crois pas, elle est au travail.
Où est ta mère, Adrien ? Où est Joséphine ?
Partie pour la journée, je suis tout seule, qu'est-ce que je fais ?
Marie-Laure avait oublié l'heure. Après 4 semaines passées à Saint-Raphaël, elle ne se souvenait plus de l'endroit où étaient rangées les montres. Il n'y a pas d'horloge dans cette maison de vacances, elle a pensé ça. Il n'y a pas de calendrier non plus. Adrien, quelle heure est-il ?
16h25.
Et elle a fait un calcul rapide. Le temps de prévenir Marc et les enfants, tout remballer et partir, il ne serait pas à la Comelle avant 2-3 heures du matin. Adrien, quel jour sommes-nous ?
Vendredi.
D'accord. Ça veut dire que demain, ni Nina ni toi ne travaillez.
Moi si, pas Nina.
D'accord, on s'en fout. Écoute-moi bien, tu m'écoutes ?
Oui.
Tu vas sécher tes yeux et aller la chercher à la sortie de son travail. Tu trouves n'importe quel prétexte et tu l'emmènes loin, très loin, le temps qu'on arrive. Il ne faut pas qu'elle rentre chez elle. Fais-lui croire que vous avez 2 jours devant vous. Invente.
Mais... Mais elle va voir que j'ai pleuré, je vais jamais y arriver.
Si, a presque crié Marie-Laure, tu vas y arriver, tu vas le faire pour Nina. Elle a entendu les sanglots d'Adrien dans l'appareil. Il n'a que 18 ans, je lui demande l'impossible. Elle a pensé aux Damam. Peut-être fallait-il passer par eux, les appeler pour les prévenir, mais Nina les connaissait à peine. Oui, mais eux trouveraient un moyen de l'emmener quelque part le temps qu'elle rentre à la Comelle et gère la suite. Elle a pensé à Marion, l'a revue dans la cour de l'école, l'a entendue rire, elles étaient si jeunes, insouciantes. Pourquoi avait-elle décidé de perdre tout le monde de vue? Pourquoi se perdait-on de vue? Son père venait de mourir. Comment la prévenir? Comment avait-elle pu abandonner Nina? Pourquoi? Ne pas juger. La voix d'Adrien a sorti Marie-Laure de sa torpeur.
« Je vais y arriver »,
a-t-il soufflé. Et il a raccroché. Au même moment, Nina, assise derrière son bureau, archivait d'anciennes factures de 1993 par mois, puis par ordre alphabétique. Elle en était à mars. Elle s'est demandé ce qu'elle faisait en mars 1993. Elle était encore en première. Elle n'aurait pas aimé y retourner. Repasser le bac, merci. Elle ignorait alors que quelques heures plus tard, elle serait prête à tout donner pour leur passer. Même chaque année, si seulement elle avait la moindre chance de retourner du côté de mars 1993. Dehors, il faisait beau. Elle s'ennuyait dans ce bureau. Pensait à septembre, à Paris, comme une libération. Elle y pensait comme à la mer, un champ des possibles, un infini, une intranquillité. Découvrir, dessiner, chanter, composer, rencontrer. Et chaque soir, retrouver Étienne et Adrien, vivre tous les trois, ensemble, bientôt. Cela faisait 6 jours qu'elle sortait avec Emmanuel Damam, qu'il l'attendait le soir après le travail. Il dînait chez lui. Nina n'avait jamais vu ça. Un repas pour deux les attendait sur la table de la cuisine, juste à réchauffer, comme au restaurant, avec plusieurs entrées, 2 plats différents et un dessert. C'était donc cela, avoir du personnel, ne plus faire de courses, ne pas passer l'aspirateur, ne pas laver son linge. On faisait tout pour Emmanuel, jusqu'à son lit. Il vivait sur la propriété de ses parents, dans une maison isolée et indépendante. La veille, il était parti rejoindre des amis pour quelques jours à Saint-Tropez. Il l'avait appelée 1 heure avant au bureau, des rires dans la voix, pour savoir si elle travaillait bien. Il lui avait dit « Tu me manques ». Et elle avait répondu « Toi aussi ». Elle n'en revenait pas de plaire à ce fils de bonne famille, elle qui se voyait comme une fille de mauvaise famille à cause de sa pute de mère. Elle avait toujours ce sentiment d'être comme un chien abandonné qu'un brave type avait fini par recueillir. Le samedi, au Club 4, le soir où Dao devait soi-disant chanter, Emmanuel l'avait fait boire. Ils étaient restés au bar, collés l'un à l'autre. Nina avait oublié Adrien sur la piste, elle avait tout oublié. Elle était comme quelqu'un d'autre. Une fille dont elle avait emprunté la vie, le temps d'être heureuse. Emmanuel l'avait embrassée. Sa langue contre la sienne, une sacrée promesse. Des baisers comme ceux d'Emmanuel, Nina ignorait que ça existait. Ce garçon était d'une sensualité indéniable. Nina avait le sentiment de ne plus toucher terre, de s'offrir. Il aurait pu faire d'elle n'importe quoi, comme quand la vie est bien plus grande que ce qu'on imagine. Il l'avait caressée, ses mains sur sa robe. Après 3 jeans, il avait osé descendre, frôler son sexe à travers le tissu, de plus en plus pressant. Elle avait gémi, une envie qui recouvrait sa peau, des armées de fourmis, une invasion de picotements délicieux. Elle n'avait pas envie de faire la même chose. Elle avait à peine effleuré son sexe en érection et cela l'avait terrifiée, comme une violence. Il avait fini par murmurer « On va devoir y aller ». Il lui avait pris la main, l'avait fait monter dans son cabriolet et avait dit « Comme c'est la première fois, je ne vais pas te baiser dans la voiture. On va rentrer chez moi. » Te baiser. Ces mots l'avaient choquée. Elle était redescendue sur terre, dessoulée, comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle avait eu peur. Est-ce qu'elle aurait mal? Est-ce qu'elle allait saigner? Est-ce qu'elle saurait faire? Elle ne pensait pas que les choses iraient si vite entre l'entrée d'Emmanuel au Club 4 et leur premier baiser. À peine 1 heure. Et à présent, ils repartaient ensemble. Elle n'avait pas eu le temps de prévenir Adrien, C'est Joséphine qui devait venir les chercher après la fermeture. Rendez-vous à 4 heures sur le parking, comme d'habitude. Nina espérait rentrer avec Emmanuel. Elle l'avait dit à Adrien la veille en riant, en priant, en sautant sur son lit. Et maintenant, elle ne riait plus. Elle avait peur. Ne restait que les prières. « Mon Dieu, je sais pas où vous vous planquez, mais faites que ça se passe bien. » Que penserait Joséphine quand elle ne verrait pas Nina avec Adrien sur le parking? Elle avait du mal à croire qu'elle était assise dans cette voiture, celle qui lui faisait battre le cœur dès qu'elle l'apercevait au coin d'une rue. Une Alpine A610 rouge, une voiture de sport, de riche, de grande personne, elle qui n'était encore qu'une enfant. Cendrillon au pays des Damam. 30 kilomètres séparaient le Club 4 de la Comelle. Un monde séparait Nina Beau d'Emmanuel Damam. Un milliard d'années-lumière. Alors c'était ça, être belle comme le jour? Une expression qu'elle entendait toujours sur son passage. C'était pouvoir plaire à un homme qui ressemblait à un prince charmant? 30 kilomètres pendant lesquels Emmanuel lui a dit de choisir la musique. Regarde dans la boîte à gants et sur le tableau de bord. Des dizaines de cassettes, dont 2 albums d'Étienne Dao, Pop Satori et Pour nos vies martiennes. Elle a eu envie de rire en introduisant une cassette d'Oasis dans le lecteur. La voix de Liam Gallagher. Emmanuel a baissé le son. « Parle-moi encore de toi, Nina. » Elle s'est sentie inutile, bête, minuscule, inculte. La timidité a pris le dessus. « Je préférais que ce soit toi qui me parle de toi, » s'est-elle entendue répondre. « Et si on ne parlait pas ?» Il a pris la main de Nina et l'a posée sur sa bite. Il s'est caressé avec ses doigts à elle, doucement. Il appuyait à peine sur son jean, pas comme une brute. Il était délicat, mais terriblement déterminé. À nouveau, Nina a détesté cette sensation de violence. Depuis le temps qu'elle en rêvait, le rêve prenait une drôle de tournure. Elle a eu hâte d'arriver chez lui, de boire d'autres verres encore, s'emplir de cet alcool qui nous fait si bien croire qu'il fait beau, même les jours de pluie. Ils ont passé une grille. Nina a vu une sorte de manoir au loin, entouré d'arbres, et a deviné une piscine à l'avant. Tout était plongé dans l'obscurité. « Tu pourras me ramener chez moi après ?» a-t-elle presque imploré. Il a souri et lui a répondu « S'il y a un après ?» Puis, devinant le malaise de Nina, il l'a rassurée. « Tout va bien se passer, je te promets. » Il a continué à rouler environ 200 mètres et s'est garé devant une maison en pierre, plus petite. Du lierre courait sur les murs. Les volets en bois étaient ouverts et semblaient l'être depuis toujours. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, ça sentait la bougie. À l'intérieur, c'était encore plus beau que chez Étienne. Ça faisait vieux et précieux. Nina n'avait jamais vu autant de tableaux au mur. Emmanuel lui a servi un verre, du gin et du Schweppes. Beaucoup de gin pour elle et lui. Ils ont trinqué. Avant de monter dans la salle de bain, il lui a dit « Installe-toi, mets-toi à l'aise, choisis la musique », en désignant une chaîne IFI. Il avait envie de la bouffer, de la baiser. Il sentait qu'il devenait fou. Mais devant sa mine apeurée, il devait se maîtriser. « Contrôle-toi », s'était-il dit devant le miroir de la salle de bain. Cette petite lui plaisait vraiment. C'était d'une intensité sexuelle qu'il n'avait jamais ressentie jusqu'alors. Aucune des filles avec lesquelles il avait couché ne lui avait fait cet effet-là. Pourtant, elle était gauche, jeune, très jeune. Il fallait y aller doucement. Il avait eu du mal à croire qu'elle n'était jamais passée à la casserole. Elle sortait beaucoup, dégageait quelque chose de vif, de déluré. Au bureau, il l'avait observée. Elle regardait les autres avec assurance. Il s'était dit qu'elle mentait, comme pour l'histoire d'Étienne Dao, qu'elle le prenait pour un con. Mais depuis qu'ils avaient quitté le Club 4, avec sa mine défaite, ses sourires pâles, sa tension dans les gestes, sa voix mal assurée, elle avait perdu 10 ans. Il avait vu la petite fille et non plus la jeune femme. Il avait compris qu'elle était vierge. Il l'a retrouvée en bas, debout contre un élément de la cuisine, le nez dans son verre déjà vide. Il l'a prise dans ses bras, lui a dit « Viens là ». Ils se sont allongés sur le canapé, tout habillés. Il l'a caressée. D'abord l'a rassurée. Il a senti qu'elle se détendait. Ensuite, il fallait retrouver son envie à elle, comme au club tout à l'heure. Il fallait partager, sinon aucun intérêt. Il fallait qu'elle prenne son pied. Qu'il soit, quoi qu'il arrive, un beau souvenir pour elle. Emmanuel n'était pas un goujat. Il accordait beaucoup d'importance à l'image qu'il renvoyait. Il voulait plaire, absolument. Quand Nina l'a vu redescendre de la salle de bain, elle s'est dit qu'il était beau. Très beau. Il était décoiffé. L'envie d'elle lui sortait par les yeux. De braise. Elle la ressentait, la voyait, la respirait. Son regard sur elle, un désir animal. C'est ce qui la terrorisait. Elle savait qu'elle ne repartirait pas de cette maison comme avant. Qu'il allait la dépuceler. Elle a pensé à Adrien et Étienne. Que dirait-il s'il la voyait là, dans cette maison avec lui? Étienne, c'est sûr, se ficherait d'elle. Ne supporterait pas qu'on la touche. Alors il se cacherait derrière des ricanements et des sarcasmes. Quant à Adrien, il lui sourirait de ce sourire énigmatique qu'elle n'avait jamais réussi à déchiffrer depuis l'enfance. Ils lui ont manqué violemment. Elle les a chassés de son esprit, comme on chasse une mouche à merde. Emmanuel lui a pris la main, a dit « Viens là ». La douceur est passée de l'un à l'autre. Il l'a entraînée vers le canapé, s'est allongée sur le dos, elle sur lui, légère comme une plume. Ses mains contre son corps ont soulevé sa robe. Il l'a touché son soutien-gorge et l'a dégrafé. Elle s'est laissée faire. Lui savait déjà beaucoup de choses qu'elle ignorait. Des gestes qui faisaient gémir, venir de la chaleur et du plaisir dans le ventre, et qui irradiaient jusqu'au sexe, sans qu'il le touche, juste en enfonçant sa langue dans son oreille, ou en la mordillant là où la peau était sensible. Des parties de son corps qu'Emmanuel éveillait et lui révélait. Une nuit, en zappant, alors qu'Étienne et Adrien s'étaient endormis juste à côté d'elle, elle avait vu un film porno. Elle avait vérifié que les garçons dormaient à point fermé, la télécommande dans la main, prête à changer de chaîne au cas où l'un des deux ouvrirait les yeux. Elle aurait préféré mourir que se faire gauler. Elle avait baissé le son et regardé ses sexes ouverts, mouillés, dégueulasses et fascinants à la fois. Les acteurs ne se caressaient pas. Il n'y avait pas d'amour. C'était comme une mécanique. De la chair à saucisse. Un abattoir. La chambre froide d'un boucher. Le lendemain, elle avait dit au garçon « Cette nuit, j'ai vu un film porno à la télé. Ça m'a choquée. » Étienne lui avait répondu « Tais-toi, je veux rien savoir de ta vie sexuelle. Toi, tu me racontes bien comment sont les nichons de tes copines. Moi, c'est pas pareil. » « Et pourquoi c'est pas pareil ? T'es une fille. » Et Adrien avait souri timidement. Emmanuel la caressait longtemps. De temps en temps, il la regardait, lui demandait si ça allait. Il avait le visage rouge, il transpirait. Il avait perdu de sa superbe, il ressemblait à un désaxé. Elle lui a répondu « oui ». Elle n'a su dire que cela, « oui ». Il s'est levé pour éteindre la lumière. Il a fait ça pour elle. Lui s'en fichait. Il l'a allongée sur le dos, lui a retiré sa robe d'un geste assuré et son soutien-gorge qui pendait sur son ventre. Il s'est déshabillé à son tour, a libéré son odeur, un mélange de parfum et de sueur. Ils se sont retrouvés nus l'un contre l'autre, elle l'a trouvé lourd. Il est descendu, a léché son sexe. Pour Nina, un mélange de bonheur et de malheur d'être ainsi exposée à la langue d'un inconnu. Ses doigts à l'intérieur comme s'il la fouillait. Envie et répulsion se tenaient par la main. Plaisir et dégoût imbriqués l'un à l'autre. Il est remonté à sa hauteur, visage contre visage. Sa bouche sentait le sexe humide. Elle a eu envie de partir en courant. De redevenir une enfant de 7 ans. Ne pas être plus haute que la barrière en bois blanc devant chez son grand-père. Il l'a écartée. Est entrée en elle sans forcer. Elle a eu mal. Elle a arrêté de respirer. Lui a fait des allers-retours dans son corps en soufflant très fort. Il a serré les poings, s'est tendu, a soufflé « J'ai trop envie de toi ». Et c'était fini. Il ne bougeait plus. Son souffle dans son cou. Il a retiré son préservatif du bout des doigts. Il lui a murmuré à l'oreille qu'ils allaient recommencer, prendre le temps. C'est donc ça qui fait tourner le monde et écrire des chansons? Faut que je retravaille les paroles, a pensé Nina. Adrien revoyait la scène en boucle. Il faisait le plein d'essence pour la propriétaire d'une Renault 5 blanche immatriculée 69 quand le camion des pompiers était passé devant la station, sirène hurlante. Il n'y avait pas prêté attention. Il avait hâte de finir, les yeux rivés sur les chiffres qui défilaient sur l'écran de la pompe pour retourner dans la guitoune et finir la lecture d'un roman qu'il passionnait. Le véhicule s'était arrêté 300 mètres plus loin, sans faire taire ses sirènes. Adrien avait regardé par réflexe, deviné un attroupement, des badauds qui couraient. La propriétaire de la Renault avait dit « Je viens de passer devant, c'est horrible. Quelqu'un m'a dit que c'est un facteur qui s'est fait renverser. » Adrien a tout de suite compris qu'il s'agissait de Pierre. Il connaissait sa tournée, ses rues. Il savait que le quartier bas de la Comelle, c'était lui qui le faisait. Adrien avait dîné chez les Beaux la veille parce que Emmanuel était parti à Saint-Tropez. Depuis qu'elle avait couché avec lui, Nina ne le quittait plus. Elle faisait même l'impasse sur les appels à Étienne le soir. Alors Adrien l'avait questionné. « Alors, c'est comment ? Tu l'aimes ?» Mais Nina était restée évasive jusqu'à lâcher cette drôle de phrase. « Pas de quoi casser trois pattes à un canard. » Adrien avait trouvé ces mots tellement inattendus, incongrus, qu'il avait piqué un fou rire. Et Nina de l'imiter, sans rien ajouter. Tandis qu'ils dînaient tous les trois dans le jardin, Pierre s'était plein de douleur dans les muscles en souriant. « Je suis plutôt jeune. » Adrien avait cessé d'appuyer sur le pistolet. Les chiffres s'étaient immobilisés. Il avait laissé le réservoir ouvert et était parti en courant vers les gyrophares. Ces 300 mètres lui avaient paru interminables. Comme dans les cauchemars où on court sans avancer, où on veut crier sans qu'aucun son sorte. Il avait fini par voir l'homme allongé par terre, ses jambes inertes, du sang par flaques, des éclats vermillons. Adrien avait pensé « Que va devenir Nina ?» Le camion n'avait pas été endommagé, aucune trace sur la peinture, comme si le chauffeur s'était garé au milieu de la route le temps de faire une course. Ce dernier était là, pâle, hagard, indemne, répétant « Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu !» Une des roues de Pierre dépassait de sous l'engin, comme si le véhicule avait avalé le vélo et recraché ce dont il ne voulait pas. La partie supérieure du corps de Pierre, ainsi que son visage, était dissimulée sous une couverture, comme dans les films lorsque les victimes viennent d'être assassinées. Adrien avait vu une sacoche abandonnée sur un banc, un peu à l'écart. Que faisait-elle là ? Elle avait été amochée, elle aussi, écrasée. Il l'avait prise machinalement, était entré dans une cabine téléphonique. Chez lui, le téléphone avait sonné dans le vide. Il s'était rappelé que sa mère était partie à Lyon pour la journée. Il s'était senti seul au monde, avait levé la tête, vu les pompiers emporter le corps de Pierre sur une civière. Il avait farfouillé dans ses poches, retrouvé le bout de papier sur lequel Nina avait gribouillé le numéro de téléphone de la location des Beaulieu. Et Marie-Laure avait fini par répondre. Après avoir raccroché, Adrien s'est mis à courir comme un fou. Il est retourné dans sa guitoune, a pris 2000 francs dans la caisse. C'était une folie. Il avait besoin de ce job pour partir à Paris, s'installer, manger. Il allait tout perdre, mais il n'agissait plus que par instinct. Sa raison était partie avec Pierre Beau sur une civière. Il fallait emmener Nina loin, très loin d'ici, en attendant que les Beaulieu reviennent de Saint-Raphaël. Faire vite, très vite, avant qu'on prévienne Nina. Il est entré chez les Damam sans se présenter, rouge comme un coquelicot. À l'accueil, une grosse femme aux cheveux blancs, lunettes à monture noire, l'a regardée, interdite. Elle connaissait ce gosse de vue. Elle s'est rappelé qu'il était l'ami de Nina Beau. Peut-être même son petit copain. Les jeunes ne s'emmerdaient plus. Ils rentraient carrément dans l'entreprise pendant les heures de bureau. « Il faut que je voie Nina !»«
Bonjour !»«
Elle travaille !»
lui a-t-elle répondu sèchement.
« Il faut que je l'emmène loin !»
Pardon ?
Est-ce qu'elle sait ? La femme l'a dévisagé, comme s'il était désaxé ou drogué. Au même moment, la gendarmerie a appelé pour informer Lunette à monture noire qu'un chauffeur de la société venait de renverser un homme place de Gaulle. Un accident mortel. Il fallait que M. Damam, père, vienne de toute urgence. On n'avait pas encore déterminé ni les causes, ni les responsabilités dans l'accident. Pendant ce temps, Adrien poussait toutes les portes. Bureau, salle des imprimantes, réserve. Il a caché la sacoche de courrier sur une étagère en hauteur, derrière des cartons. Il ne fallait pas que Nina la voie. Adrien a fini par découvrir Nina, assise derrière un bureau. Quand elle l'a vue, elle l'a questionné du regard, sans prononcer un mot. Adrien a très bien su donner le change. Ne le faisait-il pas depuis toujours ?
On est vendredi, on est jeune, dans un mois on s'en va. Nina, on s'en va à Paris.
Avant, j'ai envie de faire une folie. On a un week-end. Je t'emmène où tu veux, là, maintenant. J'ai prévenu ton grand-père, il sait que tu es avec moi, il a dit d'accord. Ça l'a même fait rire. Viens, on s'en va.
Elle a souri. À ce moment-là, et à cause de ce sourire, Adrien s'est violemment pincé l'intérieur du bras pour ne pas craquer. Elle était sa sœur, sa préférence, celle qu'il aimait le plus au monde. C'est à cet instant, dans cette pièce grise avec vue sur rien d'autre que des murs, qu'il l'a su, définitivement su. Nina allait souffrir, et c'était insupportable. En attendant, il lui offrirait ses deux derniers jours d'insouciance, ses deux derniers jours d'enfance. Elle avait bien le temps de découvrir la vérité, de devenir adulte du jour au lendemain. Pour éviter de repasser par l'accueil, il a ouvert la fenêtre derrière elle, l'a enjambée et lui a dit « Suis-moi !»«
Mais je n'ai pas fini ma journée de travail !»«
On s'en fout, tu couches avec le patron !»«
T'es bête !»
Elle a enfilé une veste, a pris son sac. Ils sont passés par de petites rues pour aller jusqu'à la gare, ne croiser personne. Ils ont rejoint Mâcon par le train express régional de 17h10. À Mâcon, Nina a choisi Marseille sur le tableau d'affichage. Adrien a acheté deux billets avec l'argent volé.
Mais c'est quoi tous ces sous ?
C'est mon père, une récompense pour ma mention, alors autant en profiter. À 23h, ils arrivaient gare Saint-Charles. Depuis une cabine téléphonique, Adrien a téléphoné à sa mère pendant que Nina a acheté deux panini chocolat banane. Joséphine avait appris pour Pierre Beau. Tout le monde se faisait un sang d'encre. Emmanuel Damam cherchait Nina partout. Le gérant de la station essence avait appelé Joséphine, furieux. Il voulait porter plainte contre Adrien. Elle lui avait rapporté l'argent volé, qu'on n'en parle plus. Lui avait expliqué pour le grand-père de Nina. Adrien a demandé à sa mère de passer chez les Beaux pour s'occuper de Paola et des chats. La porte est toujours ouverte, mais au cas où, il y a une clé sous le gros pot rouge à côté du paillasson. Ils reviendraient tous les deux dimanches. Il emmènerait Nina directement de la gare chez Étienne, qui les attendent là-bas, en fin d'après-midi, pour lui annoncer la nouvelle tous ensemble. Il avait déjà raccroché quand Joséphine a demandé
« Mais vous êtes où ?»
Adrien a acheté les billets retour pour le dimanche, puis ils ont pris un autobus qui descendait vers la mer, se sont arrêtés sur une petite rade nommée la plage du Prophète. L'air était doux. Des jeunes avaient fait un feu de camp. Adrien et Nina les ont rejoints. Ils ont parlé, bu des bières, mangé des pizzas, dansé sur « Sous le soleil de Bodega ». Nina avait l'air heureux. Elle regardait Adrien comme on regarde quelqu'un qu'on aime. Le sable était froid. Il a demandé à Nina si ça lui disait de dormir à la Belle Étoile. Elle a répondu « Oui, c'est génial ». À 2h du matin, ils se sont calés contre un petit cabanon de plage, se sont allongés dans les bras l'un de l'autre. Adrien lui a soufflé « Je t'aime, Nina. Je t'aimerai toujours. » Elle a répondu « Je sais. » Adrien n'a pas dormi de la nuit, pensant à la mort de Pierre, aux conséquences, à la tristesse. Comment la vie pouvait-elle prendre des chemins aussi radicaux ? Nina a été réveillée par le jour. Ils se sont déshabillés, sont entrés dans la Méditerranée. Il faisait encore frais, mais le ciel était d'un bleu pur, prometteur. En face d'eux, les îles du Frioul renvoyaient une lumière blanche, presque lunaire. Ils sont restés longtemps dans l'eau calme comme un lac ce matin-là, comme si les vagues n'étaient qu'une légende. Profitant de chaque seconde, ils ont passé la journée sur cette plage bondée. On était en plein mois d'août. Nina a adoré l'accent marseillais. Elle écoutait parler autour d'elle, comme on écoute les paroles d'une chanson. Dans l'après-midi, pendant qu'elle se reposait, Adrien a acheté du savon, du dentifrice, une brosse à dents, deux bouteilles d'eau, des tomates, une pastèque et des gâteaux salés. Ils ont porté les mêmes vêtements pendant 2 jours. Un jean, un t-shirt et leur veste qu'ils ont enfilée durant la nuit. La journée, ils étaient en sous-vêtements. Nina n'a pas voulu quitter cette plage. Il y avait une douche publique devant les cabanons. En fin de journée, ils se sont lavés, se sont fait sécher au soleil, assis sur un rocher en regardant les voiliers et les derniers baigneurs. Nina a dit « C'est le plus beau jour de ma vie, si seulement Étienne et Papy étaient là pour voir ».